Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour, bienvenue, c'est le premier numéro nouvelle formule de Micro-Méga et c'est la dernière partie avec Jean-Yves Casga. Une interview multifacette dans cette partie, il s'agit de montrer les autres facettes d'un scientifique connu aujourd'hui. Ça sera Pascal Pic, paléontologue à la recherche du propre de l'homme. Et puis également la visite de Béatrice Barbuis, une astrophysicienne brésilienne. Car voyez-vous, l'astrophysique c'est dans l'air du temps et ça va l'être au moins toute cette année.
Micro-Méga. Jean-Yves Casga.
Et oui, 2009, c'est l'année de l'astronomie. Cette semaine à Paris, à l'UNESCO, il y avait le lancement officiel. On avait un peu les yeux en l'air, ce qui ne fait pas de mal par les temps qui courent, avec la présence de nombreux représentants de cette discipline, dont Jean-Yves, Béatrice Barbuis, qui travaille à São Paulo.
Alors, astrophysicienne, parce que d'abord, s'intéresser comme ça à l'origine de l'univers, moi, ça m'a toujours fasciné. En plus, elle a deux grosses actualités. L'une, et bravo, Béatrice Barbuis, vous êtes lauréate pour le prix Women for Science, lauréate de l'UNESCO pour l'Amérique latine. Il y en a cinq par an, vous êtes une des cinq, c'est quand même pas mal. Et puis, comme vous êtes un des artisans de cette année de l'Union Astronomique Internationale en 2009, vous en profitez pour prononcer à l'UNESCO toujours, apporter une contribution et ouvrir cette année, parce que ça y est, là, c'est en 2009.
On a ouvert à l'UNESCO l'année de l'astronomie, qui fête les 400 ans que Galilée a tourné vers le ciel. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'année où Kepler avait publié la nova Astronomia Nova. C'est son œuvre qui explique le mouvement des planètes. C'était aussi en 1609. Donc c'est l'année de l'astronomie approuvée par l'UNESCO et par l'ONU. Et il n'y aura pas d'autre parce qu'il n'y a pas d'événement plus important que cela. Et donc il y a eu l'ouverture qui était très intéressante, qui parlait de tout, des univers parallèles, la vie extraterrestre. Et bon, mais ce qu'on veut faire passer surtout, c'est de faire connaître mieux l'astronomie, non seulement le système solaire qui est le plus connu, mais comment l'univers s'est formé, bon, les échelles de temps. Parce que prochainement, il y aura des expériences et des satellites qui vont être lancés, qui vont apporter de nouvelles. Et nous croyons que on est dans une époque assez spéciale où il y aura beaucoup de nouvelles et des changements de figures, des changements d'idées dans le domaine de l'astronomie.
C'est-à-dire, vous participez d'ailleurs parce que vous êtes brésilienne et vous participez dans vos recherches, parce que là on revient à l'astrophysicienne que vous êtes. Vous êtes la femme qui remonte dans le temps et essaie de mesurer l'âge des étoiles, notamment dans la Voie lactée. Et en regardant un peu vos travaux, j'ai cru comprendre que vous aviez pris tout le monde à contre-pied, parce qu'au début, on avait un peu l'impression que la Voie lactée, ben, forcément, le centre était apparu avant la périphérie, le halo. Et en fin de compte, vous dites non, pas du tout, il n'y a pas une chronologie comme ça.
Au fait, je crois que c'était la première structure, c'était le centre, le bulbe. Mais c'est pas prouvé encore. Mais avec les abondances chimiques dans les étoiles dans le centre, on peut tirer des conclusions. Et la conclusion qu'on a maintenant, c'est qu'il y a des étoiles très vieilles dans les zones galactiques. Donc c'est peut-être la première structure formée dans la galaxie. Mais c'est encore controversé.
C'est pas un paradoxe d'être une femme et de travailler sur l'âge.
C'est-à-dire, ce qui m'intéresse plus, c'est les abondances chimiques, comment l'évolution chimique de la galaxie, de l'univers. Et l'âge vient par elle-même, parce que quand on va vers les premières étoiles, elles sont les plus vieilles, 14 milliards d'années. Hein. Comme disait une collègue, le plus je vieillis, le plus les étoiles que j'étudie rajeunissent. Mais ce n'est pas mon cas, le plus je vieillis, le plus elles sont vieilles.
Mais où donc s'en va le temps? Béatrice Barbuis, une dernière question pour cette année 2009 de l'astronomie. Vous avez sûrement envie de susciter des vocations. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre métier?
Bon, c'est une profession fascinante. On trouve tous les jours de nouvelles choses et on sent qu'on est à la frontière des connaissances. Quand j'observais au Chili, ce sont les meilleurs instruments, personne n'a jamais fait ça. Et on découvre des choses nouvelles tout le temps. Les observations donnent une dynamique à cette science qui n'est pas partout, pas dans toutes les sciences. Donc c'est très enthousiasmant. Même si c'est de petites choses, on a la frontière dans plusieurs niveaux. Et on est toujours à la frontière. Je crois que c'est ça qui donne la satisfaction.
C'est ce qui vous permet de rester éternellement jeune, quoi.
Ce serait bien.
Merci. 2009, année de l'astronomie, il va y avoir plein de choses, plein de résultats. C'est un vrai feuilleton, on va en reparler. Jean-Yves, dans cette dernière partie de Micro-Méga, une interview multifacette d'un scientifique connu. C'est l'occasion pour nous de découvrir un autre trait de personnalité. Et le premier à s'y coller, c'est Pascal Pic.
Bah, Pascal Pic, d'abord, je l'aime bien. C'est un paléanthropologue, il est au Collège de France. C'est pas un bricoleur dans la science, mais pourtant, il s'intéresse toujours à vulgariser. Alors, dans nos métiers, on cherche toujours une actualité. Bah, ça tombe bien, il y a un livre qui vient de sortir au Seuil, Pascal Pic, Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants. Alors, ouais. Ça tombe bien, parce que parfois, quand même, c'est un peu compliqué, ces disciplines. Donc, la vulgarisation, ça aide un peu. Mais, comme on est journaliste, on reçoit plein de trucs par la poste. Et donc, je reçois des vœux, meilleurs vœux 2009, alors j'étais très content. Alors, pas du tout les vœux de Pascal. Échappée belle, c'est une compagnie théâtrale. Et qu'est-ce que je vois quand je tourne la page? Je vois, vendredi 13 et samedi 14 mars, alors ça doit être à Lyon, j'imagine, il y a Palabre 2. Alors, Palabre 2, c'est de la danse. Alors, je me dis, tiens, c'est quoi? Alors, je lis, j'ai quoi? Palabre ouvre le deuxième volet de la double trilogie artistique et scientifique Arborescence, conçue par le paléo-anthropologue Pascal Pic et le chorégraphe Michel Allais-Egayan. Et là, je me dis, attends, mais c'est le même Pic ou... Alors, Pic danse aux étoiles, maintenant, c'est ça.
Merci de cette présentation. Ben, c'est une belle rencontre, hein. D'ailleurs, qui illustre très bien comment se fait l'évolution. Il s'agit d'activités autour du musée des Confluences à Lyon, qui est un très, très grand projet, qui est à la jonction des collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon et du Musée Guimet, donc à la fois anthropologie et sciences naturelles, et moi je suis sur les deux par mon métier. Et dans ce cadre-là, il y a des conférences dites confluences, où ils font se rencontrer un conférencier, souvent un scientifique, et un artiste qui ne se connaissent pas. Moi, j'ai droit au chorégraphe Michel Allais-Gaillant, et c'est un peu facile à comprendre, je suis fasciné par le corps et comment ce corps que nous a légué l'évolution peut se livrer à autant de créativité à travers l'expression corporelle, le sport bien sûr, mais la danse. Et là, j'ai cette petite idée toute bête de dire, écoutez, je viens faire cette conférence, mais dites au chorégraphe que je ne connais pas qu'on se voit 2 heures plus tôt et il met en scène ma conférence avec son danseur. On a fait ça. C'est à l'école normale supérieure de Lyon, et les gens nous ont fait une ovation en nous disant bah, « Attendez, ça fait combien de temps ?» On leur a dit « Ça fait 2 heures. » Alors du coup, on est parti sur un projet qui est devenu de plus en plus grand.
Mais Pascal Pic, ça veut dire que vous dansez vous-même ?
Non. Alors au départ, je marchais, et puis lorsque nous avons décidé de faire un vrai spectacle, une vraie chorégraphie d'une heure, il n'y avait pas de prévu la forme conférence dansée. Par où ça avait commencé. Et j'envoie ce texte au chorégraphe, Michel Allais-Gaillant, et au moment où j'arrive, on avait même une télévision, c'était un peu gonflé quand même, il me dit, t'enlèves tes chaussures, tes sockets, et t'es sur scène. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé mise en scène au milieu des danseurs, et ce n'était pas du tout un spectacle de prévu, et c'est devenu un vrai spectacle, Danser avec l'évolution, qui a le plus de succès, parce que les gens sont fascinés par l'idée de voir le chercheur avec les danseurs.
Mais ça veut dire que pendant que le spectacle se déroule, que les danseurs dansent, on entend votre voix qui fait une sorte de conférence happening, c'est ça?
Oui, alors le texte en fait est un texte très précis, et c'est une narration. Narration en variant sur les tons, mais qui est très rythmée avec la mise en scène, parce que c'est à la note près avec les danseurs et les musiciens. Donc c'est un spectacle tout à fait original.
Alors une question justement, puisque vous avez souvent été à la recherche du propre de l'homme, est-ce que l'art, parce que là donc vous touchez finalement à une autre forme avec la poésie, est-ce que ça ne serait pas ça le propre de l'homme?
Évidemment, l'homme c'est un être de récit, hein, et c'est exactement cela que pour l'instant nous tenons très fort par rapport aux chimpanzés. Bon, je ne sais pas ce que les chimpanzés pensent de nous, à mon avis ça ne doit pas être très poétique, pas de leur faute mais à cause de nos comportements. Mais la chose étant, la meilleure façon de se rappeler des choses et de les expliquer, c'est de les inscrire dans une fiction.
Extrait de la musique d'Arborescence, cette trilogie artistique et scientifique originale, suite de cette interview avec vous, Pascal Pic, paléontologue et donc chorégraphe, n'est-ce pas Jean-Yves ? Alors d'après vous, Pascal Pic, en tant que spécialiste de l'évolution, qu'est-ce qui nous freine, nous, espèce humaine, dans notre adaptation à ce monde qui change ?
D'abord, une des grandes tendances de toutes les grandes religions, les grands mythes et les grandes philosophies, ça a été de nous promettre un monde qui ne change plus. Les paradis sont stables. Ou un paradis perdu, ou un paradis à atteindre. Donc, un espèce de grand repos. À partir du XVIIIe siècle, on va répondre à cela avec l'idée de progrès. L'idée d'un grand processus dans lequel l'homme, maintenant, a une action. C'est toute la révolution des Lumières. Et puis aujourd'hui, le grand enjeu, c'est de comprendre en fait l'évolution. L'évolution est très très mal comprise, puisqu'en définitive, des fois, lorsque je parle de développement durable, des gens me disent « Oh là là, hey, on a un paléoanthropologue, nous c'est pas le passé, c'est le futur ». Ils ne comprennent pas combien les sciences du passé nous sont utiles, parce qu'on peut tester dans le passé comment des civilisations et des cultures ont été amenées, après leur période d'apogée, à elles-mêmes se mettre dans une ruine, incapable de répondre par rapport à cela. Parce que le plus difficile dans l'évolution, quand vous avez fait quelque chose qui n'a pas marché, bon, objectivement, à part les idéologues, ça ne marche pas. Mais c'est plus difficile, et c'est ça les enjeux d'aujourd'hui. C'est à partir de quel moment nous sommes capables de nous dire qu'un système qui a marché ne va plus suffire face aux enjeux d'avenir. Parce qu'aucun moyen n'est éternel.
D'où l'importance de bien comprendre l'évolution, et justement vous travaillez dessus, puisque vous publiez ce livre, donc Darwin et l'évolution expliquée aux petits-enfants. On peut donc, à partir de cette compréhension de l'évolution, peut-être mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, le titre, d'une part, c'est d'exprimer un fait important de l'évolution. C'est que l'évolution, c'est pas pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, c'est notre descendance. L'évolution, c'est pas la loi du plus fort, la sélection naturelle, ça n'a jamais été tapé sur la gueule de l'autre pour prendre sa place. C'est complètement stupide. Darwin, en France, s'est perçu à travers des dérives idéologiques. En fait, ça n'a jamais été ça, l'œuvre de Darwin. Et la chose importante, pourquoi il y a toujours évolution, c'est-à-dire changement? D'abord, parce qu'il y a des facteurs qui n'ont rien à voir avec la vie et qui affectent l'histoire de la vie. C'est ce qu'on appelle donc des catastrophes, par définition, parce que nous n'avons pas d'emprise dessus. Alors, météorites, tectonique des plaques, volcanisme, les éruptions solaires, les courants océaniques, tout ça. Le rôle de la science, c'est essayer de comprendre, mais nous avons très peu d'emprise dessus. Donc ça induira des changements. Deuxièmement, les espèces sont en relation les unes avec les autres. Il faut bien comprendre qu'une espèce n'évolue pas seule, elle évolue en coévolution dans ces communautés écologiques. Alors là, par exemple, je donne tout de suite un argument très important. Très souvent, on dit qu'il faut préserver la biodiversité. Mais on vous raconte pourquoi. Alors, on avance la question d'éthique. De quel droit nous irions éliminer des espèces alors que les générations futures, patati patata. Bon, mais il y a une raison scientifique. C'est qu'une espèce n'évolue pas seule. Nous co-évoluons avec les autres. Donc, moins il y a de diversité, moins il y a de chances de réagir au changement d'environnement. Et l'homme est aussi interdépendant de ces autres espèces, même si on croit que ce n'est plus le cas. La raison pour laquelle il y a toujours évolution aussi, donc c'est celle-ci, ces communautés écologiques, et on appelle ça d'un beau nom assez poétique, c'est la reine rouge, ça vient de Lewis Carroll.
RFI, Micro-Méga en pleine évolution, et de Darwin, on va en reparler cette année, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de reine rouge, Pascal Pic, qui doit nous faire comprendre ce qu'est l'évolution ?
Au pays imaginaire, Alice marche de plus en plus vite, court, le paysage la suit, donc elle n'avance pas. Elle tombe sur la reine de cœur, qui est la reine rouge, et la reine de cœur lui dit, mais que vous arrive-t-il ? Bah, je n'avance pas, majesté. Et la reine de cœur lui dit, bah, écoutez, dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Alors j'explique en quoi ça consiste. En définitive, la théorie de la sélection naturelle de Charles Darwin repose sur trois choses que jamais personne n'a contestées. Premièrement, tous les individus des espèces sexuées sont différents les uns des autres. Deuxièmement, une partie de ces caractères sont héréditaires. Les parents ressemblent à leurs enfants. Si vos enfants ressemblent pas à vos parents, c'est pas à cause de la théorie de l'évolution. Troisièmement, si les populations se reproduisaient sans limitation, de toute façon, au bout d'un moment, il y aurait un problème. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment ou un autre, il y aura compétition. Alors là, lorsqu'on lâche ce terme, oh là là, compétition, c'est pas gentil. Bon, faut laisser tomber un petit peu les bêtises judéo-chrétiennes. Là, on décrit une réalité. Les ressources sont, au bout d'un moment, limitées par rapport au nombre d'individus. Et c'est pas la faute à Darwin, c'est comme cela. Et on le sait bien, aujourd'hui, sur notre planète, on peut plus continuer comme cela. Bon, et du coup, eh bien, certains individus, avec leurs différences, eh bien, seront mieux capables de résister à certains agents pathogènes. Un agent pathogène déboule quelque part, franchement. On sait très bien que nous sommes inégaux, pas de droit, mais de nature, face à des agents pathogènes. On sait très bien que nos systèmes immunologiques sont variables. Un nouvel agent pathogène arrive, on sait que certains individus seront malheureusement atteints par cet agent pathogène parce qu'ils ne peuvent pas résister, et que d'autres vont résister, et je dis bien parce qu'ils possèdent ce caractère par hasard. Par hasard, c'est-à-dire que ce caractère était là, et apparemment inutile, ou lié à d'autres caractères, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et de ce fait, vous voyez bien, lorsqu'on dit la survie du plus apte, c'est une vraie bêtise. Vous pouvez être le plus apte dans l'environnement donné, et puis un agent pathogène arrive, donc c'est un changement d'environnement, d'autres personnes qui étaient soi-disant moins aptes vont se retrouver privilégiées. Et donc de ce fait, les individus qui vont survivre parce qu'ils possédaient par hasard ce caractère, parce que s'il n'y avait aucun individu, l'espèce disparaît, ce qui arrive aussi, eh bien ils vont transmettre ce caractère à leur descendance. C'est ce qu'on appelle la descendance avec modification. Et ce caractère résisté à l'agent pathogène deviendra donc ce qu'on appelle une adaptation. Et puis il y en aura un autre, et ça c'est la reine rouge.
Mais Darwin a été si peu clair qu'il faille autant d'explications et qu'il y ait tant de polémiques 200 ans plus tard.
Non, non, c'est les autres qui ont été des vrais couillons. Ben non, mais attendez, tout ça est très clair. Il suffit de relire Darwin 1859, L'origine des espèces. Il dit, son livre, c'est une longue argumentation. Le problème, c'est qu'il n'a pas été compris à l'époque, puis il y avait quand même des petites difficultés. La difficulté majeure était, d'où vient cette variabilité? Vous comprenez bien que si l'environnement est relativement stable, les pressions de sélection sont relativement stables. Comment se fait-il qu'à chaque génération, il y a autant de variabilité?
Et alors?
Eh bien, ce sera la génétique au XXe siècle. Mais Darwin avait pris acte du fait que à chaque génération, il y avait toujours de la variabilité. Et la sexualité, c'est justement lié à la reine rouge. La sexualité, ce qu'on appelle une cause ultime dans l'évolution, ça veut dire qu'un agent pathogène, s'il déboule sur une population, plus la population est homogène, plus il va balayer cette population. Or, le fait qu'on ait deux parents différents qui font un troisième différent, c'est opposé de la variation face aux agents pathogènes. Ça sert à ça, la sexualité. Alors maintenant, on a mis les formes de différentes manières. Et pour terminer sur Darwin, donc déjà, l'ouvrage de 1859 a été compris par la biologiste, mais il y avait ces problèmes que j'évoquais. Et puis Darwin va toucher à l'homme qu'en 1871-72, dans la filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle. Et le deuxième qui devait être dans le même livre est l'expression des émotions chez l'homme et l'animal. C'était le début, en fait, du programme de l'éthologie et de l'étude de l'évolution de nos comportements et des capacités cognitives. Et bien, vous savez quoi? On a mis un siècle avant de le mettre en œuvre. Le seul bouquin qui y est, et pardon d'être immodeste, mais c'est le seul, c'est Les animaux amoureux que j'ai fait l'année dernière, qui explique la sélection sexuelle. Il n'y a quasiment jamais rien eu là-dessus. On a mis un siècle à comprendre Darwin.
Et bien, pour finir et retourner à votre passion, parce qu'on sent bien, votre passion, c'est communiquer quand même, à part la maîtrise de votre discipline, hein, toujours paléo-anthropologue au Collège de France. Dans la même carte de vœux que j'ai signalée au début de l'émission, donc Échappée belle, je vois que vous avez une filiation, parce qu'on a parlé de votre spectacle, mais je découvre que derrière vous, il va y avoir une conférence dansée d'un astrophysicien, ce coup-là, Roland Bacon, toujours avec votre chorégraphe d'ailleurs, ouais. Michel et Gaillan, qui a dû d'ailleurs prendre goût à l'histoire. Et alors là, ça va être 13 heures et des poussières. Donc ça y est, maintenant, la conférence dansée, ça va être le nec plus ultra de la vulgarisation scientifique, quoi.
Eh bien, écoutez, c'est exactement comme l'évolution. Vous avez deux facteurs qui se rencontrent. Et puis, si ça ne marche pas, ben c'est éliminé. Et puis si ça marche, eh bien ça donne une nouvelle lignée. Et Roland Bacon, c'est aussi quelqu'un qui fait partie du même conseil scientifique au musée des Confluences. Donc voilà, un lieu de créativité.
Bah, nous, ce qu'on aime à Micro-Méga, c'est les bricoleurs dans votre genre, Pascal Pic.
Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants, c'est sorti aux éditions du Seuil. Merci Pascal Pic, merci Jean-Yves Casga. Si vous voulez réécouter l'émission, c'est www.rfi.fr. Et puis nous écrire si vous avez des questions, n'hésitez pas, micromega@rfi.fr. Merci à Cécile Bonessi qui a réalisé cette émission, à Cyril Etienne qui l'a mixée. On fait un saut quantique jusqu'à la semaine prochaine. Dans quelques instants, la synthèse de l'actualité sur RFI.